Mais en revanche, nous, le socle du métier, c'est la déontologie, c'est le respect des règles de déontologie. Et c'est ça qui fait un avocat, en fait. Pour moi, la confiance qu'on lui accorde, elle est liée au fait qu'il est tenu à cette déontologie. Vis-à-vis des confrères, vis-à-vis des pièces produites. Il y a des pièces qu'on ne produit pas. Quand on sait qu'elles ont des origines douteuses, on ne doit pas le faire. Quand on a des contentions, on doit communiquer ces pièces correctement, etc. Et là...
Oui. Et vous dites que il y a un processus de recrutement qui potentiellement vous n'avez pas été retenu du fait de votre couleur de peau. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà vécu ? Enfin, une prise de conscience, vous voyez ce que je veux dire,
oui,
de ça ?
À l'université, je trouve qu'il y avait eu quelques passages qui étaient un peu étranges. Même au lycée, ça arrive. Je pense que quand on est en France et qu'on n'est pas blanc, on est confronté. On est confronté à ça. Il faut être aveugle pour pas s'en rendre compte.
Ouais.
Après, moi, je suis métisse, donc j'ai la moitié de ma famille qui est blanche, la moitié de ma famille qui est noire. Et nous, chez nous, on considère toujours que c'est la dernière explication. C'est-à-dire que quand on est confronté à un phénomène, on regarde toute autre explication possible. Et il y a que quand on est obligé de faire face et de se dire c'est forcément ça l'explication, qu'on la retient comme étant une explication. Alors, on fait ça parce que déjà, peut-être que c'est le plus plausible, que ça soit une autre explication, il faut l'espérer. Puis d'autre part, c'est une manière de vivre qui est plus confortable, parce que sinon, vous êtes obsédé par ça. Donc moi, c'est pas du tout une obsession chez moi. Et d'ailleurs, très honnêtement, ça m'avait pas traversé l'esprit. C'est-à-dire que quand j'ai pas été retenu, je me suis pas dit « Ah, c'est à cause de ça ». C'est simplement quand mon camarade, qui était un ami, hein, qui était sur le même poste, me l'a dit, il m'a dit « En fait, c'est l'assistante qui était absolument écœurée parce qu'elle a assisté à la conversation, elle était vraiment scandalisée et elle a pas pu s'empêcher de me le dire. Et lui m'a dit bon, je te le dis quand même. Et bon, je savais que c'était quelqu'un en plus qui était très bienveillant, puis qui d'ailleurs avait eu le poste, donc il y avait vraiment aucune raison.
Oui, oui.
Et donc j'ai été obligé d'admettre que c'était ça, mais je peux pas dire que moi j'ai eu un parcours. J'ai eu quelques décisions un peu étranges quand il y avait des aléas sur des sélections. De temps en temps, j'ai trouvé des choses étranges, mais.
Oui. Face à cette situation, cette collaboration désastreuse, vous dites le temps de chercher, plutôt que d'être dans un mauvais endroit, je vais gagner ma vie avec la musique. Et puis quand je trouverai le bon endroit, ce sera le bon endroit.
Ouais. Et en fait, il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans cette histoire-là. C'est que j'ai démissionné, je n'avais rien. J'ai vraiment démissionné en pleine période d'essai et j'avais 15 jours pour partir. Je me suis d'ailleurs mis d'accord avec... J'ai du mal à dire mon patron, enfin bref.
Votre
mon co-contractant, on va dire. Mon co-contractant. Vous voyez, même c'est très vieux, mais il m'en reste quand même quelque chose. Je me suis mis d'accord pour prolonger le préavis, avec d'ailleurs tellement peu de confiance que je l'ai contractualisé, que j'ai refusé de retirer ma démission parce que j'avais peur qu'on me force à faire un préavis plus long. Et je me suis retrouvé disponible sur le marché. Et comme j'étais disponible sur le marché, j'ai eu derrière une super collaboration
c'est
avec un type extraordinaire, ouais.
Trop bien.
Et c'est vraiment, j'ai trouvé ça beau parce que je me suis dit, ben, t'as été courageux, parce que t'es parti sans rien, t'as été très conforme à ton éthique, tu t'es pas dit, j'attends de trouver autre chose, de rebondir, t'as été courageux, t'as été conforme à tes valeurs, et j'ai été payé par une espèce de retour de karma, puisque comme j'étais disponible, comme mon préavis était terminé, ça a sans doute joué dans mon embauche, et en fait, le cabinet dans lequel j'ai été embauché, c'était en 2001 et j'y suis resté jusqu'en 2018. Et j'y ai rencontré mon mentor qui était vraiment comme un peu mon père dans la profession que je vois encore maintenant et qui m'a absolument tout appris et pour qui j'ai un respect infini. Donc il y a eu quelque chose de très aligné. J'ai été fidèle à moi-même et j'en ai été payé au centuple.
Ouais. Et justement, vous étiez disponible sur le marché. À ce moment-là, vous aviez commencé à envoyer des candidatures ou ils ont appris que vous quittiez votre collaboration ou, je sais pas, que vous étiez disponible et dans ces cas-là, ils vous ont contacté?
Mais en fait, j'ai fait marcher un peu ce qu'on appelle Radio Palais chez nous. C'est-à-dire que dès que vous dites quelque chose qui est confidentiel, tout le monde le répète. Donc j'ai dit, mais je suis pas bien là où je suis, j'ai envie de partir, en étant sûr qu'en le disant, ça allait faire le tour du palais très rapidement. Ça n'a pas manqué. Et comme ça a commencé à faire le tour du palais, les gens sont venus parce que je pense que j'avais quand même pas mal de gens qui me trouvaient sympathique, puis ils voyaient que j'étais quand même travailleur. Les gens sont venus me dire, mais ils m'ont pris un peu en pitié, ils m'ont dit, ah, mais il y a un poste à tel endroit, à tel endroit. Et c'est une amie qui était une amie, alors c'est vrai que toute cette histoire est parsemée espèce de clin d'œil, parce que c'était une consoeur qui se reconnaîtra si elle écoute. Je vais garder le secret, parce que je crois que personne ne le sait au barreau de Nancy, qui était avec moi à la crèche. Je crois même que c'était ma petite amoureuse à la crèche.
Ouh.
Voilà. Et c'est elle qui m'a appelé en me disant, il y a ce poste-là qui se libère parce que moi, j'ai été démarchée. Tu devrais poser ta candidature. Et j'ai posé ma candidature. Et cet avocat-là était un avocat qui était très respecté par mon précédent maître de stage, qui avait beaucoup d'admiration pour lui. Et mon précédent maître de stage, je pense, a aussi appuyé ma candidature en disant que j'étais un type bien. Et j'ai même pas en fait affiché mon CV à quelque moment. J'ai fait un entretien.
Oui.
Et c'était aussi d'ailleurs, oui, j'ai oublié ça. Là aussi, il y avait une forme de karma. C'est cette personne qui avait fait mon rapport pour mon inscription. Parce qu'en fait, à l'époque, je crois que ça se fait encore,
ça
il y avait un membre
encore,
du
ouais.
conseil de l'ordre qui était désigné et qu'on devait rencontrer. Et quand je l'ai rencontré, j'avais pas encore trouvé ma première collaboration catastrophique, mais lui ne cherchait pas. Et il m'avait dit, ah, vous avez quand même un beau CV, un beau parcours, il faut faire de la publicité sur votre candidature parce que je pense que vous êtes quelqu'un de bien. Et donc, ensuite, il y a eu vraiment un alignement des planètes parce que quelques mois après, lui a cherché, moi j'étais disponible et c'est comme ça que...
Donc finalement, vous n'avez pas eu trop de périodes où justement vous viviez de la clarinette ?
Non. Non, parce que en fait, mon préavis s'est terminé fin juin et il m'a embauché au 1er août. J'ai eu un trou le mois de juillet.
Parfait.
Voilà, très bien, ça m'a un peu reposé de mes aventures qui n'étaient pas... J'en souris, encore les dents un peu serrées aujourd'hui, parce que c'est vieux, mais... J'en ai pas gardé un grand souvenir. En tout cas, ça m'a sensibilisé à ces problématiques-là, parce qu'on était quand même au bord... de ce qu'on pourrait appeler du harcèlement, moi, je trouve. Ça n'en était pas parce que ça n'a pas duré suffisamment longtemps, je pense. Puis j'avais pas vraiment la personnalité pour laisser faire, mais on aurait pu basculer là-dessus.
Mmh. Et donc, on va dire pas une première collaboration, mais une première collaboration heureuse qui commence.
Oui.
Et pour durer 17 ans, du coup.
Alors, en fait, ça 16. A duré 4 ans, ensuite il m'a associé,
oui.
et ensuite quand il est parti à la retraite, il m'a cédé ses parts et,
ah oui,
et on a repris le cabinet avec la collaboratrice de l'époque.
Qui a été une longue relation ouais. Évolutive et tranquille. Et vous dites, ça a été mon mentor, enfin voilà, vous en parlez avec ces mots, comment ça s'est manifesté ?
Bah, c'est vraiment un type extraordinaire. Alors physiquement, c'est mon opposé absolu, c'est vraiment très rigolo. C'est un grand type de 2 mètres de haut, avec les cheveux grisonnants à l'époque où j'avais une grosse barbe, très grosse voix, vraiment brillant, un avocat brillant, très savant. Je crois qu'on fait plus trop ce type d'avocat aujourd'hui, c'est-à-dire avec une connaissance dans plein de matières, vous connaissez vraiment énormément de choses. Et puis, quelqu'un d'infiniment respecté, et c'est vrai quand vous êtes collaborateur, je sais pas si c'est pareil à Paris, mais vraiment, dans les régions, on sent la différence en fonction aussi du poids de votre patron. Moi, lui, je dis mon patron, vous voyez, spontanément. Parce que lui, c'était un type très carré, très honnête, très brillant. Et quand vous aviez des dossiers qui venaient de chez lui, les magistrats vous respectaient, les confrères vous respectaient. Et c'est assez facile, entre guillemets, derrière, de bâtir sa propre réputation. Parce que, bon, déjà, vous avez une exigence de travail. Alors on est encore à l'époque du papier, enfin on est à la frontière entre les deux, mais je voyais revenir les projets, je les vois encore, hein. Je me rappelle encore du nom de dossier, je le tairai là, mais je me souviens très bien, on a fini par le gagner très longtemps après, c'est moi qui ai fini par le gagner, mais il revenait un énorme truc comme ça, il devait faire 40 cm de haut, et il arrivait posé sur mon bureau avec ma copie et des corrections partout, ligne par ligne. Et je le redonnais, et ça revenait, et je le redonnais, et ça revenait, jusqu'à ce que le projet soit bon. Ça aussi, pour votre ego de jeune avocat, ça fait du bien, parce que quand on arrive, on pense qu'on va tout casser et qu'on est le plus beau, le plus fort. Et puis là, je veux dire, je travaillais mon truc. Des fois, je cherchais vraiment longtemps, parce qu'en plus, j'avais envie qu'il trouve ça bien. Et puis, ça revenait... Et les corrections, c'était ça. Je me disais, c'est ça, en fait, que je... Bah oui, ouais, bah oui, voilà, ok. Hop, il mettait une flèche, bah oui, c'est ça, faut que ça soit là. Et après, ça vous formate aussi l'esprit. Et quand vous avez vraiment beaucoup de respect pour la personne qui vous corrige et qui vous transmet, c'est super, parce que vous acceptez, en fait, de changer, parce que vous savez que vous êtes en train de vous améliorer.
Oui. C'est intéressant ce que vous dites pour l'ego du jeune collaborateur, ça fait redescendre. Je pense qu'il y a, en fonction des personnalités, il y a ceux qui vont être hyper heurtés du côté, justement, où il y a autant à reprendre et peut-être se sentir un peu coulé et noyé face à une forme de tout ça. Et d'autres qui sont très preneurs, en fait, de ces allers-retours, du fait de remettre le cœur à l'ouvrage, ce perfectionnement, on va dire. Et je sais plus avec qui j'ai échangé récemment, qui disait aussi, qui faisait référence aussi à son patron qui faisait les corrections manuscrites, et puis ensuite il fallait qu'il rentre les modifications dans l'ordinateur, et voilà, et ensuite ça repartait. Il disait, ben, aujourd'hui on passe un peu pour un vieux con quand on fait ça, alors que je pense vraiment que quand on est collaborateur, on apprend mieux quand on rentre des modifications manuscrites, parce qu'on peut pas juste se contenter d'accepter la modification sans vraiment intégrer. Le débat est ouvert. Je ne sais pas s'il y a des managers qui nous écoutent aussi ouais, là-dessus. Mais...
Après, moi, j'ai aussi, je pense, l'obsession de l'artiste. J'entendais Marie Dosé, qui vient du même coin que moi, de France. Enfin, ma maman vient de... Ma maman a une histoire compliquée, mais en tout cas, on a un lien fort avec Commercy. Et elle, elle vient de Commercy. Puis on se connaît, on a sympathisé. Et elle expliquait ça. Et elle est passée au conservatoire au même moment où moi, je suis passé. Quand vous êtes musicien... classique notamment, vous avez cette espèce d'obsession, c'est-à-dire qu'il y a un objectif que vous devez atteindre, vous savez dans votre tête comment ça doit être. Et après, vous travaillez pour y arriver. Et il n'y a pas d'orgueil là-dedans, c'est-à-dire que vous savez très bien que ce que vous produisez, c'est pas ce que vous êtes, c'est pas la même chose. Et ça, moi j'ai appris ça au conservatoire, et ça m'a été extrêmement précieux. C'est-à-dire que je sais que parfois je vais plaider, puis ça va être bien. Et je le dis sans aucune modestie, ça va être bien, mais ça va être bien pour moi, parce que je sais que ça va être quelque chose que j'ai produit, qui est beau, qui est de qualité. Puis des fois, ça sera pas bien. Mais aussi bien quand je rentre, et c'est bien, je me dis pas, ça y est, t'es devenu Hervé Témime. Mais quand c'est nul, je me dis pas non plus, t'es devenu nul. Je me dis simplement, t'as raté, et j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que j'ai raté. Et quand je travaillais les conclusions à l'époque, bah, il y avait un objectif, c'était déjà de faire ce que faisait ce patron, Jean-Guy Gaucher. Je me disais, si j'arrive à faire un truc qui ressemble à du Jean-Guy Gaucher, je serais vraiment content. Et ensuite, bah, j'ai fait un mélange entre ce que moi je peux faire et ce que lui proposait pour essayer de trouver ma propre patte. Mais déjà, si votre standard, il est placé à ce niveau-là, c'est super. Et je pense que, au fond, il y a aussi de l'ego là-dedans. Parce que votre ego, il se manifeste dans le fait que vous dites « je suis capable de faire quelque chose que moi, je trouve de haut niveau ». Si vous n'avez pas d'ego, vous vous dites « bah en fait, j'arriverai jamais à faire ça, je ne sais pas le faire ». Ou alors, si vous avez de l'ego, mais de l'ego, ce que j'appellerais de l'ego mal placé, vous dites « mais bah, d'où après tout, pourquoi lui, ça serait ma référence ?» Il faut aussi accepter, quand on arrive dans ce métier, qu'on n'y connaît rien du tout. Ce n'est pas parce que vous êtes fort en droit, vous avez été un fort étudiant ou je ne sais quoi, que vous êtes un fort avocat. Je pense qu'on peut pas devenir un avocat très fort en n'étant pas un juriste très fort. Mais on peut être, à mon avis, un bon avocat en étant un juriste moyen, et on peut être un très mauvais avocat en étant un très fort juriste. Ça n'a pas grand-chose à voir. Votre niveau juridique est pas du tout la garantie que vous soyez un bon avocat. Un bon avocat, c'est quand même en grande partie un bon stratège. Il y a aussi une manière d'écrire... Moi, Jean-Guy, il m'a vraiment appris aussi cette brièveté. Il disait, je me souviens, j'ai pas eu le temps d'être bref. Parce que, en fait, c'est difficile d'être concis, de tout mettre. Ça demande des fois plus de travail que de mettre des pages qui sont illisibles, que personne ne lit au final, et qui n'ont pas d'impact. Et c'est vrai que une belle récompense quand on est avocat, je fais beaucoup de droit public maintenant, c'est de voir des fois recopier par la juridiction ce que vous avez écrit. Il y a de temps en temps, vous avez cet hommage, vous avez un ou deux paragraphes qui sont quasiment ce que vous avez mis dans votre mémoire. Et là, vous vous dites, là, j'ai atteint quelque chose.
Oui, la clarté de mon explication a remporté la conviction à tel point que ça en est devenu un motif de jugement. C'est très juste, je trouve, ce que vous dites sur l'ego et le fait que finalement, dans l'humilité, il y a beaucoup d'ego parce qu'il y a l'ego de savoir que le gap entre là où on est aujourd'hui et ce dont on accepte l'exemple et donc l'origine de la critique est un gap franchissable. Et je voulais vous demander justement qu'est-ce qui, quand vous dites, ben voilà, faire comme du... vous avez dit Jean-Guy ?
Jean-Guy, ouais, Jean-Guy Gaucher.
Faire comme du Jean-Guy Gaucher. Qu'est-ce que vous aimiez tant dans sa manière d'être avocat ?
Ah, il y avait déjà, je trouve, il y avait une grande honnêteté intellectuelle dans la manière de travailler, et une grande honnêteté vis-à-vis du client. C'était pas un battleur. Ça veut pas dire que vous avez pas un rapport commercial, il existe ce rapport commercial. Mais il vendait pas quelque chose qui n'existe pas. Parce que pour moi, le client, il attend aussi ça, de l'avocat. Il attend de la franchise et de l'honnêteté. Et puis, c'était quelqu'un, je trouve, qui, enfin, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Je suis pas toujours d'accord avec lui. Hein. Des fois, on a des débats et on n'est pas d'accord. Mais il essaye d'être très cohérent tout le temps. Parce que pour moi, quand on est avocat, on est soi-même aussi. C'est-à-dire que, par exemple, bon, dans mon activité, je fais aussi, enfin, je fais beaucoup de pénal et beaucoup de public. Il y a eu tout un chemin pour arriver là, mais quand je suis au, par exemple, à la cour d'assises, quand vous interrogez quelqu'un, pour moi, tout n'est pas permis. Parfois, vous êtes obligé d'être dur, parce que ça fait partie du métier. Si vous avez un dossier de viol, par exemple, vous êtes pour l'accusé, et que vous trouvez que ce que dit la plaignante est faux, et que vous avez des moyens de démontrer que c'est faux, vous êtes obligé à un moment de la confronter au caractère mensonger de ce qu'elle raconte. J'allais dire erroné, vous voyez, parce qu'il y a quand même une nuance entre les deux, mais erroné à tout le moins de ce qu'elle raconte. Mais il y a la manière de le faire. Parce que moi, je considère pas que quand je mets ma robe, je deviens quelqu'un d'autre. En partie, c'est une espèce d'armure, mais c'est une armure qui me protège pas de mes coups intérieurs. C'est-à-dire que ça va me protéger des coups extérieurs, mais pas de mes coups intérieurs. Si moi, je suis pas aligné avec mes propres valeurs, il y a des choses que j'arrive pas à faire. Et par exemple, sur un dossier de viol, si je suis pas intimement persuadé que mon accusé n'est pas coupable, je peux pas aller démonter, j'allais dire une victime, vous voyez le lapsus, une plaignante. Parce que là, il y aura quelque chose de trop dur à faire pour moi, de trop cruel en fait. Parce que j'aurai au fond de ma tête une petite voix qui va me dire « Oui, mais attends, si vraiment elle a été victime, ce que t'es en train de faire, c'est monstrueux, c'est horrible parce que t'es en train de la démonter et t'es en train de vraiment lui faire du mal. Si elle ment, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Si je suis persuadé qu'elle ment, j'ai pas de problème. Si j'ai un doute quant au fait qu'elle mente, je vais déjà le faire de manière assez différente. Mais je vais le faire, j'aurai pas de problème. Par contre, si... Moi, en tout cas, si je ne crois pas mon client fondamentalement, ou au moins que j'ai pas le doute quant à sa culpabilité, je ne peux pas le faire. Et ça, je pense que c'est une partie de l'enseignement de Jean-Guy, c'est que je pense que lui avait vraiment une honnêteté dans ses prises de position. J'allais dire un peu une honnêteté à l'ancienne, mais je crois que ça serait un peu magnifié cette période parce qu'il y avait aussi des sacripants à cette époque-là. Ça a toujours existé. Mais il y avait peut-être aussi des fois, j'ai pas senti ça chez lui, mais peut-être que des fois c'est un luxe aussi. C'est aussi le luxe de l'avocat qui a beaucoup de clients et qui peut trier et dire ça je prends, ça je prends pas, ça je fais pas, ça je vais me fâcher, mais c'est pas grave.
Vous avez dit si j'ai un doute sur le fait qu'elle ment ou si peut-être qu'elle ment, je vais le soulever, mais je vais le faire d'une manière qui soit, je vais pas le faire de n'importe comment. D'une certaine manière, j'imagine, pour la protéger aussi, elle, d'être renvoyée à son propre mensonge. Comment vous allez vous y prendre ?
Ah, si on prend cet exemple...
C'est un exemple, hein, effectivement.
Oui, mais c'est un bon exemple, parce que je trouve que c'est vraiment le cas dans lequel on est confronté à sa propre conscience quand même. Si je prends l'exemple d'un viol, contesté, pour moi, il n'y a pas 50 possibilités. C'est soit la personne accusée ment, soit la personne qui accuse ment, soit la personne qui est accusée folle, soit il y a un malentendu. Et peut-être soit l'accusé est fou. C'est vrai que ça aussi, c'est possible. Bon, l'hypothèse du malentendu, elle est toujours possible. C'est-à-dire que ça, moi, je trouve que dans les dossiers, parfois, on a deux narrations qui n'aboutissent pas du tout à la même conclusion, mais qui sont pas forcément contradictoires. Il faut simplement avoir l'esprit assez ouvert pour écouter l'un et l'autre, et essayer de voir si vraiment l'histoire qu'il raconte, c'est deux histoires complètement différentes. Ou est-ce qu'on n'est pas dans un truc un peu à l'exercice de style de Raymond Queneau, où on aurait deux narrations de la même scène, mais faites de manière complètement différente. Et finalement, est-ce que dans les espaces, il n'y a pas de quoi trouver quelque chose qui rejoint les deux narrations ? Après, moi je me dis toujours, si jamais, pour moi, ce que dit la personne est faux, mais j'ai une espèce de doute quant à son comportement à elle, peut-être que cette personne est folle, j'utilise le terme un peu violent, mais auquel cas je pense qu'il faut pas malmener les gens qui sont fous, parce que c'est mal dans mon échelle de valeur. Donc il faut simplement démontrer à la juridiction qu'il y a un problème profond, mais c'est pas la peine de secouer la personne dans tous les sens. Le seul cas où vraiment il faut secouer la personne, pour moi, c'est quand vous avez la preuve qu'elle est malveillante.